Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Nicolas et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, l'inquiétude des familles des otages français en Iran. Cécile Kohler et Jacques Paris, tous deux détenus à la prison d'Evin lorsqu'elle a été bombardée par Israël. On a appris ce matin que cette frappe avait fait 71 morts. Benjamin Netanyahou échappe pour l'instant à la justice. Le tribunal de Jérusalem reporte les auditions du premier ministre israélien dans son procès pour corruption. Un report réclamé par Donald Trump il y a quelques heures. L'actualité, c'est aussi François Bayrou qui contre-attaque. Le premier ministre français répond à la motion de censure déposée par le Parti Socialiste. Et puis la cigarette sur les plages et dans les parcs, désormais interdite en France. La loi est entrée en vigueur ce matin. C'est une prison ultra sécurisée, nichée au pied de la montagne au nord de Téhéran, et désormais les pelleteuses et les bulldozers y déplacent des gravats. La prison d'Evin, tristement connue, a été la cible d'une attaque israélienne la semaine dernière. On apprend aujourd'hui que les frappes ont fait 71 morts. C'est dans cet établissement que Jacques Paris et Cécile Kohler, les deux otages français, étaient détenus. Ils ont depuis été déplacés. Ils sont en vie selon la diplomatie française, mais leurs proches restent pour l'instant sans nouvelles. Noémie Kohler est la sœur de Cécile Kohler.
Il y a un énorme trou noir sur le sort de ces détenus qui étaient dans des sections de haute sécurité comme la section 209. Les détenus étaient vraiment isolés du monde extérieur et en fait c'est vrai que on ne sait pas s'ils ont été touchés, on ne sait pas s'ils ont été transférés dans des lieux secrets. Tout est tellement incertain et en fait rien ne nous indique aussi que Cécile et Jacques n'étaient pas en audience au moment des frappes alors que le tribunal a été bombardé. L'infirmerie c'est un peu moins probable parce que d'après ce qu'on a compris en termes de soins médicaux c'était pas ça quoi. C'est assez dur et en fait on a beaucoup de mal à comprendre comment c'est possible que les autorités françaises puissent pas obtenir plus d'infos, quoi. Enfin, c'est fou.
Noémie Kohler avec Alice Froussard. 6 jours après la fin des combats entre Israël et l'Iran, Téhéran demande à l'ONU de reconnaître la responsabilité d'Israël et des États-Unis. Responsabilité qui aboutirait au paiement de réparations. Téhéran dit par ailleurs avoir de sérieux doutes sur le respect du cessez-le-feu par l'État hébreu. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le chef d'état-major des armées. Une chose est sûre, Israël poursuit bien sa guerre à Gaza et les civils continuent d'en payer le prix. 17 personnes tuées aujourd'hui dans l'enclave, dont un jeune homme de 18 ans qui attendait une distribution d'aide alimentaire. C'est la défense civile qui le rapporte. L'État hébreu a lancé ce matin de nouveaux appels à évacuer, alors qu'on le rappelle, la Cour internationale de justice parle de risque de génocide à Gaza. Benjamin Netanyahou, lui, échappe pour l'instant à la justice. Le premier ministre israélien ne sera pas entendu à ce stade dans son procès pour corruption. C'est un document du tribunal de Jérusalem qui nous l'apprend. Alors que l'avocat de Benjamin Netanyahou avait demandé le report des auditions en raison du contexte international, quelques heures plus tôt, une autre voix s'était élevée en soutien du premier ministre israélien, celle de Donald Trump. Le président américain a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne tolérerait pas le maintien du procès de son allié. Pour Romuald Ciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, cette ingérence dans les affaires internes d'un pays ami révèle le sentiment de toute puissance de Donald Trump.
Trump prend donc la défense de son ami, car c'est un ami, Benjamin Netanyahou, face au juge d'Israël. Il appelle une fois encore à la fin d'une chasse aux sorcières dont lui-même se dit avoir été victime. Et donc, effectivement, il y a là une ingérence jamais vue de la part d'une démocratie libérale vis-à-vis du système judiciaire d'une autre démocratie libérale. Jamais nous n'avons vu cela, un président étranger s'ingérer dans la politique judiciaire d'un pays ami. C'est donc très choquant, mais tout cela va dans le sens de ce Trump devenu tout puissant, il faut bien le reconnaître. Donald Trump tente depuis quelques mois avec ses proches d'instaurer aux États-Unis une forme de démocrature, un système qui ressemblerait plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique d'Obama. Donc tout cela va dans le sens de la politique et de la vision des affaires qu'a Donald Trump.
Romuald Ciora avec Lila Olkiniora. L'actualité l'actualité aux États-Unis, c'est aussi le début de l'examen du projet de loi de budget surnommé One Big Beautiful Bill, une grande et belle loi par Donald Trump. Le texte faramineux prévoit des baisses massives d'impôts et des investissements dans la défense. Les députés et sénateurs de Californie, eux, ont voté vendredi au niveau local pour augmenter les impôts des productions hollywoodiennes. Ils pèsent désormais 750 millions de dollars chaque année. Alors pourquoi ce revirement ? Eh bien parce que les tournages fuient Los Angeles. Loïc Piala, de plus en plus de productions lui préfèrent d'autres villes américaines.
Au premier trimestre, les tournages à Los Angeles étaient en baisse de 22% par rapport à 2024. La tendance dure, alors Hollywood se demande si elle ne va pas devenir le nouveau Détroit, une ville ravagée après le départ du secteur automobile qui avait fait sa richesse. Les productions Marvel se tournent quasiment toutes près d'Atlanta désormais, un exemple parmi d'autres de la concurrence à laquelle la Californie fait face. La Géorgie, le Nouveau-Mexique, la Louisiane, les Carolines et d'autres proposent des crédits d'impôts séduisants, tout comme le Canada, l'Australie ou l'Irlande, une incitation financière qui s'ajoute à un coût de la vie, du logement à l'essence en passant par l'alimentation, bien moindre que dans le Golden State. D'où cette hausse spectaculaire des crédits d'impôt, 750 millions de dollars, plus du double des 330 millions accordés jusqu'ici. La mesure était attendue, mais elle a fait débat. Pourquoi aider le milieu du divertissement dans un État confronté à une grave crise du logement ? Parce que le cinéma et la télévision font vivre des centaines de milliers de membres de la classe moyenne, a répondu l'industrie. L'argument a fini par convaincre les élus récalcitrants, mais ce coup de pouce suffira-t-il à stopper ce qu'Hollywood appelle les runaway productions, les productions qui s'échappent ? Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
À Los Angeles et dans de nombreuses autres villes américaines, des milliers de personnes vont défiler aujourd'hui pour la Marche des Fiertés, la Pride qui se tenait hier en Europe. À Budapest, 200 000 personnes ont manifesté en dépit de l'interdiction de l'événement par Viktor Orban. Il y a une majorité, mais François Bayrou le reconnaît, au sein même de sa coalition, il y a des sensibilités différentes. En France, le Premier ministre promet une loi pour mettre en place la proportionnelle aux législatives. La proportionnelle, c'est un serpent de mer promise depuis des années mais jamais appliquée. François Bayrou, lui, y est favorable et promet un examen devant le Parlement en fin d'année au début 2026. Mais ça, c'est si le Premier ministre n'est pas censuré d'ici là par le Parlement. Le Parti Socialiste a déposé une motion de censure il y a quelques jours après l'échec, selon eux, des négociations sur les retraites. Et aujourd'hui, François Bayrou ironise sur la démarche du PS.
C'est une blague. Le Parti Socialiste fait pas une censure sur la question de l'inscription du texte législatif. Ils font une censure pour montrer qu'ils sont dans l'opposition. Et pourquoi ils font une censure en expliquant pour les plus éminents d'entre eux que ça ne sera pas voté. C'est un coup de semonce. Et donc, quelle est ma vision de l'avenir ? Je pense que pour gouverner la France dans les difficultés où elle est, il conviendra de constituer un vaste courant de responsables qui va du Parti Socialiste comme il devrait être, en passant par les mouvements du centre politique français jusqu'aux gaullistes.
François Bayrou chez nos confrères de RTL tout à l'heure. On reste en France où ça y est, le texte vient d'entrer en vigueur depuis ce matin. Interdiction de fumer à la plage, dans les parcs ou sous les abribus. Alors qu'en pensent les fumeurs et surtout les non-fumeurs ? Sylvie Coffi en a rencontré quelques-uns à Paris. Reportage.
Sur l'aire de jeu entre balançoire et ballon, plusieurs parents sont favorables à cette interdiction.
Je suis bien contente que mon fils y paye dans un parc sans qu'il y ait des fumeurs ou trouver des mégots de cigarettes sur le sol.
Par exemple, ici, c'est un parc avec des enfants et je trouve que la fumée de cigarette, c'est quelque chose de toxique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir ça là où il y a des enfants. C'est sûr que c'est des trucs qui auraient dû logiquement déjà être faits sans avoir besoin d'avoir une loi pour le faire, quoi. Là, la seule différence, c'est que maintenant, c'est une infraction et que donc, du coup, il va y avoir des amendes. C'est ça la diff. Donc, il va falloir faire attention.
Assise sur un banc, cette maman est du même avis.
Ça devrait même pas être une loi, en fait. Pour moi, ça paraît logique de pas fumer dans un parc pour enfants.
Changement de décor à la terrasse d'un café où cette mesure ne s'applique pas aux fumeurs.
Je suis une fumeuse et bien sûr que je vais défendre ma cause, mais chacun a sa conscience. À un moment, ils vont nous interdire même fumer dans le balcon, dans notre maison. C'est vrai que la fumée, ça va partout, mais si on le regarde comme ça, il y a les voitures aussi qui polluent, il y a plein de choses qui polluent. C'est pas que la cigarette.
À terme, le non-respect de cette interdiction pourrait être sanctionné par une contravention de 135 euros.
Reportage de Sylvie Coffi à Paris, où il est tout juste 15h passées de 10 minutes, 13h10 en temps universel tout de suite. C'est si loin, si proche sur RFI.